Théologie biblique par le Père Philippe, Saint Joseph, le 18 décembre 84.
Cette semaine-ci, il puisse y avoir un cours de réponse aux questions. Moi, j'ai dit qu'à peu près tous les mois, on ferait ça. Je crois que c'est bon. Alors, préparez vos questions. Je vois qu'il y en a ici. Alors, préparez vos questions pour jeudi. Mais je crois qu'il faut les donner aujourd'hui et demain pour qu'on puisse les regrouper. Alors, n'inventez pas des questions, hein, vous êtes libres. Mais s'il y a des questions, vous les posez, tout simplement. Et puis vous les donnez au frère Benoît. Parce que c'est lui qui les rassemble et qui fait le boudin particulier des questions. Alors nous allons continuer d'entrer dans l'Exode. Vous voyez qu'il y aurait là une théologie à faire de la purification, de la correction du Père, la théologie de la correction du Père, avec les 10 plaies d'Égypte. Je crois qu'on est en présence quand même d'une correction magistrale. Le Pharaon en vaut la peine, et il a la tête suffisamment dure pour que la punition soit assez magistrale. Et alors, on voit là, et on aurait le maxime étalé dans l'ordre de la correction. On aurait la correction, et c'est là où on devrait essayer de comprendre, parce que je suis persuadé que ça donnerait des clés par rapport à certains passages de l'Apocalypse qui sont difficiles à comprendre et qui sont des corrections. Je pense au mystère des trompettes, la sixième trompette, la cinquième trompette, c'est des corrections de Dieu. Dieu nous corrige tout le temps, ça tout le temps, beaucoup plus qu'on ne le pense. De temps en temps, on fait la sourde oreille. Et sur quoi porte cette correction? Cette correction porte sur le cœur du Pharaon qu'il faut convertir. Toute correction, c'est en vue d'une conversion. Le Pharaon est fixé sur sa gloire en raison de l'efficacité. Il ne voit que l'efficacité. Et il se sert du peuple d'Israël pour une efficacité qui soit la plus grande possible. Dieu veut libérer, théologie de la libération, Dieu veut libérer son peuple du joug du Pharaon pour lui redonner sa liberté religieuse à 3 jours de marche dans le désert pour adorer. Donc, il faut convertir le cœur du Pharaon en lui faisant comprendre, non pas qu'il doit adorer, mais qu'il doit laisser les autres adorer. Laisser la liberté religieuse. C'est quand même assez beau de voir que la correction magistrale porte sur celui qui gouverne et qui oublie la liberté religieuse. Et cette correction consiste justement à vouloir redonner au Pharaon ce sens du respect de l'autre dans ce qu'il a de plus grand, de plus fondamental, sa liberté religieuse, son adoration, sa capacité d'adorer. C'est, je crois, cela qui nous fait comprendre la conversion, vous voyez, dans ce qu'elle a de, j'allais dire, de plus élémentaire. Et en même temps, la conversion à l'égard de quelqu'un qui exerce une grosse autorité. Donc, c'est en même temps la conversion la plus difficile. C'est plus facile de se convertir quand on est seul que de se convertir quand on a une grande autorité et un grand pouvoir. C'est beaucoup plus difficile. Et la conversion porte là-dessus. Alors, il faudrait comprendre, si on le peut, on le fera, je ne le fais pas maintenant, mais vous pouvez le faire vous-même, hein. Comprendre la signification symbolique des 10 plaies. Voir comment Dieu, qui est un Père, qui châtie bien, par amour. Comment les 10 plaies vont faire le passage de ce sens de la domination, de la tyrannie, vis-à-vis de cette libération au plan religieux. Autrement dit, je crois qu'on pourrait dire transformer le cœur du pharaon tout entier occupé à l'efficacité pour qu'il devienne magnanime. Dieu lui demande d'être magnanime. Être magnanime, c'est accepter que ceux qui nous sont soumis puissent adorer. Et je crois que c'est vraiment cela qui donne la signification des 10 plaies d'Égypte. Alors, voyons ce que nous avions commencé de faire, je le reprends. Yahvé dit à Moïse, chapitre 11. Mais alors, faites-le vous-même, c'est facile et c'est intéressant. C'est intéressant à faire, c'est toute la question de la symbolique. Comment comprendre comment il s'agit de défoncer tout ce qu'on a construit. On se construit soi-même, et on se construit dans une espèce d'attitude de tyrannie vis-à-vis des autres, d'un primat d'efficacité. Alors arrivait cette conversion intérieure. Yahvé dit à Moïse, il y a encore une plaie que je vais faire venir sur Pharaon et sur l'Égypte. Après quoi, il vous renverra d'ici. Quand il vous renverra, ce sera tout à fait. Il vous chassera même d'ici. Parle aux oreilles du peuple pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. Dieu qui donne un bon conseil. Un bon conseil, c'est un très bon conseil que Dieu donne. Yahvé fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens. De plus, l'homme qui était Moïse était très grand au pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, « Ainsi parle Yahvé, vers le milieu de la nuit, je vais sortir à travers l'Égypte. Tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui doit s'asseoir sur son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui est derrière la double meule, et tout premier-né du bétail. » C'est à l'égard donc des vivants. Il y aura dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, telle qu'il n'y en a pas eu de pareil, et tel qu'il n'y en aura plus de pareil. Alors, il faudrait relever, sur une petite fiche, chaque fois que cette expression-là. Parce que, vous savez bien, il est dit que Salomon est l'homme le plus sage qui n'existe jusque maintenant, et après lui, il n'y aura pas de sagesse plus grande. C'est une expression qu'on retrouve, et qu'on peut retrouver même chez les mystiques. Marthe disait, depuis Marie, personne n'a vécu la passion autant. Marthe disait, le Seigneur disait ça, et qu'après elle, plus personne. Vous voyez ? Alors, c'est très important de saisir ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un langage particulier de Dieu. Il ne faut pas le prendre mathématiquement. Ce serait très faux. Vous comprenez bien qu'il y a eu des malheurs plus grands que cette plaie d'Égypte, la croix. Parce que cette 10e plaie d'Égypte, elle est symbolique du mystère de la croix. Mais elle n'est que le symbole, et le symbole n'est jamais aussi fort que la réalité. Il y aura dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, telle qu'il n'y en aura pas eu de pareille, et telle qu'il n'y en aura plus de pareille. Mais contre aucun des fils d'Israël, pas un chien ne pointera la langue, ni contre les hommes, ni contre les bêtes, afin que vous sachiez que Yahvé fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Fameuse distinction. Le prince de ce monde sera jeté bas à la croix, pour que vous sachiez qu'il y a une distinction entre le Père qui sauve et le démon qui veut notre ruine. Oui, c'est toujours la même chose. C'est cette espèce de discernement à travers ce passage de Dieu. Tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors ! Toi et tout le peuple qui est sur tes pas. Après quoi, je sortirai. » Moïse sortit de chez Pharaon enflammé de colère. Yahvé dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera pas, afin que se multiplient mes prodiges au pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent donc tous ces prodiges devant Pharaon. Mais Yahvé fit s'obstiner le cœur de Pharaon et ne renvoya pas les fils d'Israël de son pays. » Donc là encore, double problème, double mystère. Le mystère de la correction et le mystère de l'entêtement. Et permission de Dieu que Pharaon ne se corrige pas, que Pharaon ne comprenne pas. Il y a là donc tout un aspect de la théologie qui est très intéressant à voir, c'est le mystère de la correction du Père. Dieu qui corrige, parce qu'il aime. Yahvé dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, « Ce mois sera pour vous en tête des mois. » Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un renouveau, une reprise, hein, au point de vue liturgique. Les neuf étaient successifs. Et puis, on va toucher quelque chose d'ultime. Ultime au point de vue des plaintes. Ultime au point de vue liturgique. Et comme c'est ultime au point de vue liturgique, c'est en même temps un point de départ nouveau. Toujours l'alpha et l'oméga se tiennent dans l'économie divine, surtout quand il s'agit d'un point de vue liturgique. Alors ça, c'est ce grand mystère que nous voyons de l'institution de la Pâque. Et l'institution de la Pâque prend une importance fondamentale pour le peuple d'Israël, puisque c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est Dieu qui sauve son peuple du joug du Pharaon. Ce mois sera pour vous en tête des mois. Vous voyez, l'alpha qui rejoint l'oméga, le sommet. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu fait que ce mois, qui est parmi les autres, va avoir, au point de vue liturgique, donc, au point de vue symbolique et efficacité, la liturgie est toujours symbolique et en même temps, elle est un instrument de grâce, elle est un sacrement. Et donc, il faut retrouver cette double dimension. Ce mois va être revêtu d'une valeur unique. Il va être le premier. Parler à toute la communauté d'Israël en ces termes. Le 10 de ce mois, que chacun de vous se procure une tête de menu bétail. par maison paternelle. Une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une bête, on la prendra avec le voisin le plus proche de sa maison. Suivant la quantité de personnes, d'après ce que chacun mange, vous calculerez ce que doit être la bête. Petit calcul de cuisine, c'est très important, à l'intérieur même de cette liturgie-là. Ce sera pour vous une tête de menu bétail, sans défaut, un mâle, âgé d'un an. Vous le prendrez parmi les agneaux ou parmi les chevreaux. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et l'assemblée entière de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra du sang et on en mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons dans lesquelles on le mangera. On mangera la chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des azymes et des herbes amères. Vous voyez, Dieu donne le menu, hein, un menu détail. C'est extraordinaire. C'est très très beau ça, c'est très significatif. Hein. Ça c'est la liturgie. On est téléguidé par Dieu. C'est pas sa fantaisie, hein. On est téléguidé par Dieu. Alors, dans l'Ancienne Alliance, ça allait encore plus loin. Mais c'est très intéressant, ça, vous voyez, pour tous ceux qui veulent de la fantaisie au point de vue liturgique. Hein. C'est ancien, ça. C'est Dieu qui lui-même montre sa présence. Et on ne comprend plus ça du tout. On ne comprend pas du tout que les paroles de Dieu sont immuables. La liturgie, ça vient de Dieu, ça vient pas des hommes. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Alors il y a quelque chose qui demeure de cette manière-là. On mangera la chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des azymes et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit cru, ou simplement bouilli dans l'eau. Les Suisses, ils aiment beaucoup ça, quand c'est bouilli dans l'eau, vous voyez, ça va pas. C'est d'être rôti. C'est très curieux, mais ça correspond à des tas de choses importantes, vous voyez, ça montre que Dieu a bon goût. Et qu'il montre que nous devons nous mettre à son école. C'est vrai, c'est un père, que voulez-vous. Vous n'en mangerez rien qui soit cru. Ou simplement bouilli dans l'eau, mais seulement rôti au feu, la tête avec les jambes et avec les entrailles. Vous ferez qu'il n'en reste rien jusqu'au matin, et ce qui en resterait au matin, vous le brûlerez par le feu. Et voici comment vous le mangerez. Ceinture aux reins, sandales aux pieds et bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est une Pâque pour Yahvé. C'est très beau. Alors, il faudrait voir ici hein, toute la symbolique que les pères de l'Église ont cherchée. Hein. Tous les pères de l'Église ont cherché toute cette symbolique de la Pâque. C'est Dieu qui reprend son peuple. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Il le rassemble et il le reprend. Et il le reprend autour d'un repas sacré, d'un repas religieux. Oui, toute la théologie des repas commence là. Hein, c'est sûr. C'est la première fois où nous voyons la théologie du repas. Avant, c'était des sacrifices. Tandis que là, on a la théologie du repas. Alors, pourquoi ? Parce qu'il s'agit de nous une communauté. Alors, les repas, nous la communauté. C'est les repas de famille, c'est le repas monastique. Ça noue la communauté, n'est-ce pas ? Et ça fait que la communauté ne part pas n'importe. Le jour où chacun prend son petit repas dans son coin, il n'y a plus de communauté. C'est sûr. La communauté, alors évidemment, on peut faire ça sur un style particulier d'ermite, ça c'est autre chose, hein, mais en fond, Dieu veut nouer sa communauté de cette manière. Et il la noue de cette manière autour d'un repas qui est le repas pris à la hâte. La spiritualité du repas pris à la hâte. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Alors évidemment, il faut que la prudence demeure, mais pas pour les estomacs fragiles, mais autrement, c'est quand même ce qui nous est montré. Vous le mangerez à la hâte, c'est une Pâque pour Yahvé. Je passerai cette nuit-là dans le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Et de tous les dieux d'Égypte, je ferai justice, moi Yahvé. Le sang servira de signe pour vous sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je sauterai au-delà de vous. C'est pour ça qu'on dit que Pâques, ça veut dire le saut. C'est le saut d'Yahvé. C'est Dieu qui saute au-delà. C'est une des significations de la Pâque. On dit passage et le saut. Et les deux peuvent être vrais. Parce que Dieu, c'est un discernement. Vous voyez, c'est Dieu qui fait le discernement. C'est le discernement du mystère de la prédestination qui est montré là. C'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu est lié au sang. Alors évidemment, pour nous, ça prend toute une signification merveilleuse avec le mystère de la croix. On est prédestiné dans le sang du Christ. Et voyez que le sang sert de signe pour indiquer ceux qui sont épargnés. Donc qui sont bénis de Dieu. À la différence de ceux qui, au contraire, vont subir la mort. Le sang servira de signe pour vous sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je sauterai au-delà de vous. Il n'y aura pas pour vous de fléau exterminateur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là, ce jour vous servira de mémorial et vous le fêterez comme une fête pour Yahvé. Dans toutes vos générations, c'est une institution perpétuelle, vous le ferez, vous le fêterez. Donc le mémorial qui ajoute là, hein, et c'est important de voir ça. Alors, le mémorial, ça joue beaucoup. La Pâque, c'est le mémorial. C'est le mémorial de la miséricorde de Dieu. C'est le mémorial du passage de Dieu. C'est le mémorial du saut de Dieu, du discernement de Dieu. C'est le mémorial. C'est-à-dire que c'est un signe qui nous rappelle ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait pour nous. Pendant 7 jours, vous mangerez des azimes. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Car quiconque mangerait du pain levé, du premier au 7e jour, cette personne-là serait retranché d'Israël. C'est extraordinaire, hein? L'importance. C'est comme celui qui ne reçoit pas l'Eucharistie, il est comme retranché. Et ici, là encore, il s'agit du pain azim. Le premier jour, convocation sainte. Et le 7e jour, vous aurez aussi une convocation sainte. On ne fera ces jours-là aucun travail. Il n'y a que ce qui sert à la nourriture de chacun, et cela seulement que vous pourrez faire. Donc, Dieu est magnanime, il ne veut pas laisser mourir ses enfants, et donc il demande que ce jour-là, on puisse faire ce qui est nécessaire pour la nourriture de chacun, mais rien de plus. C'est un jour de fête. Si c'est un jour de fête, il faut reconnaître qu'il doit y avoir l'action de grâce et la joie. Alors vous voyez l'importance, vous mangerez des azimes, du pain sans levain, pour rappeler la pureté, pour rappeler la simplicité du cœur, c'est ce que saint Paul nous dit. La pureté, la simplicité du cœur. On ne peut pas avoir un cœur double, on ne peut pas avoir un langage double. C'est important de voir que la Pâque réclame cette pureté du cœur, cette limpidité de l'intelligence, cette limpidité dans ce que nous disons. Autrement, ce n'est plus le passage de Dieu pour nous. Et on est retranché. C'est l'exigence de la simplicité, de la pureté pour faire partie du peuple d'Israël, pour faire partie du peuple béni de Dieu. Convocation divine, hein? Convocation divine, assemblée divine. C'est Dieu lui-même qui remesure son peuple, c'est Dieu lui-même qui le reprend en main. Vous observerez les azimes, car c'est ce jour-là même que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là dans toutes vos générations. C'est une institution perpétuelle. Une institution perpétuelle, vous voyez, c'est là on voit très bien quand on dit ça, là, alors la nouvelle Pâque, elle ne supprime pas cette institution. Cette institution demeure perpétuelle. Et c'est pour ça qu'elle s'achève dans l'Eucharistie. Mais évidemment, si je prends la lettre uniquement, je dirais, il y a quelque chose qui ne va pas. Institution perpétuelle, il s'agit de comprendre. Le premier mois, le 14e jour du mois, le soir, vous mangerez des azimes. Et cela jusqu'au 21e jour du mois, le soir. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons. Car quiconque mangerait du pain levé, cette personne-là serait retranchée de la communauté d'Israël, qu'il s'agisse de résidents ou d'indigènes du pays. Vous ne mangerez d'aucun pain levé dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des azimes. Donc une insistance très grande, hein, pour montrer qu'il faut être absolument obéissant à ce que Dieu réclame, en raison d'un symbolisme qui nous dépasse de beaucoup, en raison d'une exigence de pureté. C'est cette exigence de pureté, vous voyez, sur laquelle on insiste le plus, l'exigence de pureté, parce que c'est bien ça que ça veut dire, hein, le pain azim. Pureté et droiture. Un véritable Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. C'est ça. Ne pas avoir de ruse, parce que la ruse, c'est toujours la dualité. Et dès qu'il y a la dualité, il ne peut plus y avoir la simplicité. Il ne peut plus y avoir ce pain azim. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit « Choisissez et procurez-vous du petit bétail selon vos clans. » immoler la Pâque. Vous prendrez une touffe d'hysope, vous la tremperez dans le sang qui est dans la cuvette, et vous toucherez le linteau et les deux montants de la porte avec le sang qui est dans la cuvette, et qui, et nul d'entre vous, ne franchira la porte de sa maison jusqu'au matin. Yahvé passera pour frapper l'Égypte, et quand il verra le sang sur les linteaux et sur les deux montants, Yahvé sautera au-delà de la porte. Il ne permettra pas à l'exterminateur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc vous voyez, c'est une reprise, évidemment, si on étudiait le texte au point de vue purement exégétique, vous verriez qu'il y a deux traditions qui chevauchent tout le temps. L'Esprit Saint les a unis. C'est ça que je vois, moi. Au point de vue purement exégétique, vous verriez qu'il y a deux traditions qui chevauchent tout le temps. L'Esprit Saint les a unis. C'est ça que je vois, moi. Il les a unis, pourquoi ? Je crois pour nous faire comprendre l'insistance de la chose. Parce qu'on ne peut pas dire, il y a des petits détails différents, mais c'est la même chose. Hein. Et si c'est repris de cette manière-là, si c'est redit de cette manière-là, c'est pour que nous comprenions l'importance. Vous observerez cela comme un décret pour toi et pour tes fils à jamais. Alors l'insistance, vous voyez, sur quelque chose d'éternel qui ne peut pas changer, c'est perpétuel. Lors donc que vous serez entrés dans le pays que Yahvé vous donnera, selon ce qu'il a dit, vous observerez cette pratique. Lors donc que vos fils vous diront « Que signifie pour vous cette pratique ?» Vous direz « C'est le sacrifice de la Pâque pour Yahvé qui a sauté au-delà des maisons des fils d'Israël en Égypte quand il frappa l'Égypte et sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les fils d'Israël s'en allèrent et firent selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse et à Aaron. Ainsi firent-ils. Alors, vous voyez, toujours, hein, là aussi, il faut bien le remarquer, toujours le rôle du médiateur. Hein, ce qui fait qu'exprès, il y a cette espèce de répétition. Dieu s'adresse à Moïse, Moïse s'adresse au peuple. Hein, tout le temps. Et au fond, Moïse transmet littéralement. Et c'est dit exprès pour qu'on comprenne cette médiation. Et nous, nous dirions, ben oui, tout ce qu'il y avait dit, il l'a dit. Pas du tout. C'est redit. C'est redit pour que nous comprenions ce rôle propre du médiateur. Tout ce que le Père m'a dit, je vous le dis. Or, au milieu de la nuit, Yahvé frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui doit s'asseoir sur son trône jusqu'au premier-né du captif qui est dans le cachot et tout premier-né du bétail. Alors vous voyez bien le rôle extrême, hein, c'est intéressant. Il y a l'esclave et celui qui est dans le cachot. C'est les deux pauvres. Le récit précédent disait l'esclave derrière la meule. Ici, c'est celui qui est dans le cachot. C'est celui qui est encore plus misérable que s'il était esclave. Pharaon se leva la nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et ce fut une grande clameur en Égypte, car pas une maison où il n'y eut un mort. Dieu se sert de la mort violente pour montrer que tout est entre ses mains. C'est ça que Yahvé veut faire comprendre au pharaon endurci qui croit que tout est entre ses mains. Et là, c'est bien ça la correction que Dieu veut faire sentir à Pharaon. La mort échappe au pharaon. Eh bien, Dieu va frapper les premiers-nés pour que le pharaon comprenne que sa toute-puissance est limitée. Pharaon appela Moïse et Aaron dans la nuit. « Debout, dit-il, sortez du milieu de mon peuple, et vous et les fils d'Israël, et allez, servez Yahvé comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail, selon ce que vous avez dit, et allez, bénissez-moi aussi. » Il a tellement peur qu'il demande la bénédiction. Les Égyptiens pressèrent le peuple, se hâtant de le renvoyer du pays, car ils se disaient « Nous allons tous mourir. » La mort, la crainte de la mort, qui est le point de départ de la sagesse. Il faut aller jusque-là pour que le pharaon comprenne. Ça, c'est très très fort et c'est très grand. Alors, pensez à la croix. Parce qu'il y a quelque chose d'analogue, c'est évident. Dieu qui se sert de la mort des premiers-nés et de la mort de tous les premiers-nés. Sauf le peuple d'Israël qui est sauvegardé. Et à la croix, ce sera le premier-né du peuple d'Israël qui sera offert. Alors on voit bien les parallélismes. Le peuple emporta sa part avant qu'elle n'eût levé, leur pétrin serré dans leurs vêtements sur l'épaule. Les fils d'Israël agirent selon la parole de Moïse. Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements. Yahvé fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens qui accueillirent leurs demandes. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot, environ 600 000 hommes de pied, hommes seuls, sans compter les enfants. En outre, un peuple mêlé, nombreux, monta avec eux, et aussi du petit et du gros bétail, un troupeau immense. Toujours, on ne peut pas ne pas... Le petit et le gros bétail, c'est nécessaire, ça fait partie de ceux qui suivent, des acolytes, c'est le petit et le gros bétail. Ils furent... C'est pour ça qu'il n'y en a plus, vous comprenez? Ils firent cuire en galettes. En galette azim, la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'avait pas levé. Chassés d'Égypte, en effet, ils n'avaient pu s'attarder et ils ne s'étaient même pas procuré des provisions. Le séjour que les fils d'Israël firent en Égypte fut de 430 ans. Et ce fut au bout de 430 ans, jour pour jour, que toutes les armées de Yahvé sortirent du pays d'Égypte. et ce fut une nuit de veille pour Yahvé, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Cette même nuit est une veille à célébrer pour Yahvé, pour tous les fils d'Israël, dans toutes les régénérations. Là, l'aspect liturgique intervient. Vous voyez, c'est là où on voit très bien le récit qui implique, je ne dis pas une moralisation de la chose, mais un aspect sacré, un aspect du mémorial qui est là présent et qui fait comprendre que si c'est la nuit de veille de Yahvé, ça doit être la nuit de veille du peuple d'Israël. Donnant, donnant. Hein. On retrouve bien ces aspects-là. Yahvé dit à Moïse, à Aaron, « Voici l'ordonnance de la Pâque. Aucun fils d'étranger n'en mangera. Tout esclave acquis à prix d'argent, tu le circonciras, alors il en mangera. » La circoncision est nécessaire pour pouvoir manger la Pâque. Vous voyez le parallélisme, baptême et Eucharistie. Ni l'hôte, ni le mercenaire n'en mangeront. On la mangera dans une même maison. Tu n'emporteras pas de sa chair hors de la maison. Vous n'en briserez pas un os. Toute la communauté d'Israël fera la Pâque. Si un étranger qui réside avec toi veut faire la Pâque pour Yahvé, tout mâle de chez lui devra être circoncis. Et alors, il s'approchera pour la faire. Il sera comme l'indigène du pays. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il n'y aura qu'une loi pour l'indigène et pour l'étranger résidant au milieu de vous. Tous les fils d'Israël firent selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse et à Aaron. Ainsi firent-ils. Et ce jour-là même, Yahvé fit sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte d'après leurs armées. Yahvé parla à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né, tout être qui sort le premier du sein parmi tes fils d'Israël, homme ou bête, il est à moi. Alors le parallélisme, vous comprenez bien. Yahvé a sauvé les premiers-nés d'Israël, il faut qu'Israël offre à Dieu le premier-né. Puisqu'il est sauvé, puisque normalement il aurait dû mourir. Et donc il appartient à Yahvé. Et il est à Yahvé. Il est à moi. Moïse dit au peuple, c'est pour ça que je vous dis, c'est évidemment, c'est très très... C'est la première institution solennelle pour le peuple d'Israël. C'est la première institution qui montre l'alliance nouvelle que Dieu fait avec son peuple. Alors, une alliance, c'est un contrat, donnant. Yahvé passe et au fond sauvegarde le premier-né du peuple d'Israël. Il faut qu'à partir de là, il y ait l'action de grâce, le remerciement. Et on ne peut remercier qu'en s'offrant. Moïse dit au peuple, tu te souviendras de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison des esclaves. Et c'est à force de main que Yahvé vous en a fait sortir. On ne mangera donc pas de pain levé. C'est aujourd'hui que vous sortez dans le mois d'Abib. L'ordon que Yahvé t'aura fait entrer dans le pays des Canaans, des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Hivites et des Jébuséens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays ruisselant de lait et de miel. Tu observeras cette pratique en ce mois. Pendant 7 jours, Tu mangeras des azimes, et le septième jour, il y aura une fête pour Yahvé. On mangera des azimes pendant les sept jours, et on ne verra pas chez toi de pain levé, on ne verra pas chez toi de levain dans tout ton territoire. Ce jour-là, tu expliqueras cela à ton fils en disant, c'est à cause de ce qu'a fait Yahvé pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Cela te servira de signe sur ta main et de mémorial entre tes yeux, afin que la loi de Yahvé soit dans ta bouche, car c'est d'une main forte que Yahvé t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance en son temps, d'année en année. Alors il faudrait regarder le mémorial entre tes yeux et le signe sur ta main. Vous avez la différence, hein? Le signe et le mémorial. Le signe sur ta main. Le mémorial entre tes yeux. Donc le mémorial a quelque chose de plus contemplatif, hein? C'est se rappeler et contempler la miséricorde de Dieu entre tes yeux. Et le mémorial, là. Alors, le signe sur la main, c'est beaucoup plus d'ordre pratique de l'action salvatrice de Dieu. Il y a les deux dimensions. Hein. Et je crois que ce n'est pas négligeable du tout, puisque c'est ce que Yahvé lui-même demande à son peuple de comprendre cela. L'ordon que Yahvé t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, selon ce qu'il t'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu feras passer à Yahvé tout être sorti. Tu feras passer à Yahvé tout être sorti le premier du sein, et toute première portée du bétail qui est à toi. Les mâles sont à Yahvé. Tout don. Toute âne sortie le premier du sein, tu le libéreras par une tête de menu bétail. Que si tu ne le libères pas, tu lui briseras la nuque. Tout premier-né d'homme parmi tes fils, tu le libéreras. L'ordon que ton fils te demandera demain, que signifie cela? Tu lui diras, c'est à force de main que Yahvé nous a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Comme Pharaon s'opiniâtrait à ne pas nous renvoyer, Yahvé tua tout premier-né au pays d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né du bétail. Voilà pourquoi je sacrifie à Yahvé tout mâle sorti le premier du sein. Et tout premier-né de nos fils, je le libère. Cela te servira de signe sur ta main et de fronton entre tes yeux. Mémorial, fronton. Car c'est à force de main que Yahvé nous a fait sortir d'Égypte. Donc cette répétition, encore une fois, c'est pour montrer l'importance. Et je crois que c'est ça que nous devons saisir. C'est vraiment à partir de là que se constitue le peuple d'Israël. Or, quand Pharaon renvoya le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, bien qu'il fût plus court. Car Dieu se disait, le peuple pourrait bien se repentir en prévoyant le combat et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert de la mer des Joncs. Et bien armés, les fils d'Israël montèrent du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait adjuré solennellement les fils d'Israël en disant « Dieu ne manquera pas de vous visiter ». Et alors vous ferez monter mes ossements d'ici avec vous. Hein, c'est les premières processions d'ossements. C'est ancien, c'est vrai ça. C'est la signe de la sainteté et signe de la résurrection. Il ne faut pas l'oublier. Autrement, on abandonnerait ça. Donc, on voit cette liturgie particulière. Il faut saisir ce que ça représente, justement, cela. Et c'est Joseph qui le demande. Alors, voyez bien la stratégie divine. Hein, parce qu'on va voir les conclusions. Et Dieu prévoit cela. Ils partirent de Soukhot et campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. Yahvé marchait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Il n'y a aucune logique dans ce texte, c'est extraordinaire si vous êtes attentif. Aucune, c'est pour la première fois on répète ça comme des choses qui sont déjà très anciennes. Ils pourraient aussi marcher le jour et la nuit. Ils pouvaient ainsi marcher le jour et la nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. Alors cette conduite de Dieu qui commence, elle commence là. C'est le point de départ du grand exode. C'est le point de départ de la grande procession. C'est liturgique, hein, il faut comprendre ça. Nous sommes terriblement laïcisés, nous. Hein. Alors c'est liturgique. Et dans l'Apocalypse, vous retrouvez ça. Toute l'économie divine est liturgique. Toute l'économie divine sur son peuple est liturgique. Toute l'économie divine sur l'Église est liturgique. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est que c'est une grande liturgie que Dieu donne à son peuple. Une liturgie que Dieu demandera de répéter. Alors c'est le cycle liturgique qui commence. Et le cycle liturgique commence avec Pâques. C'est le point de vue premier. Et ce cycle liturgique, c'est justement pour comprendre combien Dieu est présent et comment Dieu a sauvé son peuple. Yahvé parla à Moïse en ces termes. Dis aux fils d'Israël qu'ils reviennent et qu'ils campent en face de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal-Séphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu, au bord de la mer. Pharaon se dira des fils d'Israël. Ils sont affolés dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. Je ferai s'obstiner le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais je tirerai gloire de Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. Les fils d'Israël firent ainsi. Oui, c'est Dieu qui conduit. Hein. Alors, ici, évidemment, Dieu conduit d'une façon assez charismatique. Ça, c'est bien évident. C'est d'une façon visible, mais c'est quand même pour nous enseigner cette conduite de Dieu. Parce que la conduite de Dieu n'est pas charismatique. Les charismes, c'est pour exprimer cette conduite de Dieu. C'est pour nous faire comprendre comment Dieu conduit ce peuple et comment Dieu veut le conduire pour le libérer et lui permettre d'adorer. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui. Alors le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Et ils dirent, qu'avons-nous fait de renvoyer Israël qui ne nous servira plus hein? Ça, c'est la raison funèbre. On n'aura plus serviteurs. Vous voyez l'efficacité qui est poursuivie jusqu'au bout. Hein? Qui ne nous servira plus. Et il fit atteler son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte avec les écuyers sur chacun d'eux. Yahvé fit s'obstiner le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Il se lança à la poursuite des fils d'Israël qui sortaient la main levée. Les Égyptiens se lancèrent donc à leur poursuite et les atteignèrent. Tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Comme ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon, comme Pharaon approchait, les fils d'Israël levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'avançaient devant eux. Les fils d'Israël eurent grand peur. Ils crièrent vers Yahvé. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il donc pas de tombeau en Égypte que tu nous aies emmené mourir au désert ?» Alors ça commence, hein. Dès que l'efficacité n'est plus là. Mais on est tous comme ça, hein. C'est pour ça que c'est si intéressant à voir. Parce que là, c'est écrit en gros, vous comprenez. On est tous comme ça, dès que l'efficacité n'est plus là. Au bout d'un an de noviciat, qu'as-tu fait? Tu m'as mené là. Alors qu'il y avait beaucoup de tombeaux en Égypte. Au bout de 2 ans, c'est comme ça. Au bout de 3 ans, c'est comme ça. Quelquefois au bout de 15 jours. Et là, c'est même pas 15 jours, c'est le soir même. C'est extraordinaire, ça. C'est... Comme le cœur de l'homme a de la peine à avoir confiance. C'est l'espérance, hein. Parce que c'est la difficulté de croire et d'espérer en la conduite de Dieu, en une conduite de Dieu qui est une conduite d'amour. Et dès qu'il y a la moindre épreuve, il me dit, moi je comprends très bien que c'était pas drôle de voir les chars de Pharaon et de voir le Pharaon qui était là avec ses chars pour ramener tout le monde à la servitude. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose d'étonnant de voir comment le cœur de l'homme, qui pourtant, hein, d'une façon tangible, a vu comment Yahvé était là. Et malgré cela, ça ne dure pas. On continuera de suite, parce que je crois que c'est très grand l'Exode, hein. Vous savez bien comment tous les pères de l'Église ont découvert l'Exode comme le grand symbolisme de toutes les purifications de Dieu. Et donc, il faut découvrir ça. Alors, vous voyez, la purification vis-à-vis du Pharaon, c'est la punition du Père. C'est le Père qui taille sa vigne. Et puis, vis-à-vis du peuple d'Israël. Et Moïse, qui est le médiateur. Or, n'oublions pas que la vocation sacerdotale est une vocation de médiateur. Et donc, tout ce qu'on voit pour Moïse, hein, faut comprendre que ça nous arrivera.